France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. L'amour selon Colette. Chapitre 6, la vie sauvage. Dans le quatrième épisode, nous avons raconté comment Colette ne s'était pas rendue à l'enterrement de sa mère, qui est pourtant devenue ensuite l'un des personnages principaux de son œuvre. L'une des explications de cette conduite étrange est peut-être celle-ci. Colette aimait la vie. D'une certaine façon, elle aimait la sauvagerie du vivant, l'instinct de survie des plantes et des bêtes, mais elle rejetait la mort, le fini, le flétri. On peut imaginer que sa mère, Sido, amoureuse du vent et des tempêtes, comprenait très bien tout cela. Vous n'imaginez pas quelle reine de la terre j'étais à 12 ans. Solide, la voix rude, deux tresses trop serrées qui sifflaient autour de moi comme des mèches de fouet, les mains roussies, griffées, marquées de cicatrices. N'étais-je pas celle qui savait le nom de la fleur et du caillou, celui de la bête, qui connaissait le sentier de traverse et la source où l'on pouvait boire ? Voilà ce que Colette écrit dans ses cahiers. Mais dire que la nature et les bêtes ont été son grand amour, n'est-ce pas un peu exagéré ? A-t-elle vraiment pu aimer les animaux avec la même intensité que les humains, si ce n'est davantage ? Eh bien, tout dépend. Tout dépend si l'on place une frontière entre les êtres vivants. Et comme Colette l'avait dit à Goudquette, « Au fond, Maurice, il n'y a qu'une bête. » Sous-entendu, l'être humain en est une aussi.
Vous avez écrit aussi « La vie est un jardin où l'on peut tout cueillir, tout manger, tout quitter et tout reprendre. » Vous allez me répondre que c'est encore de la littérature ?
Oui.
Mais cette avidité à vivre qui transparaît sous les mots exprime, je le crois, une autre part essentielle de vous-même. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus ?
Sur quoi ? Sur l'avidité ? L'avidité. Une avidité bien modeste. Et qui se contentait, si on l'eût laissé en repos, et qui se contentait de vivre pendant les mois que je faisais le plus long possible dans une campagne extrêmement modeste.
Une autre Colette penserait également avec son amour merveilleux des bêtes et des plantes. Vous écrivez d'ailleurs « Je sais mieux choisir maintenant et je veux libre autour de moi la vie des plantes et celle des bêtes sans méfiance ». Et vous consacrez de très belles pages à la vie animale. Est-ce que vous vous souvenez encore de certains animaux que vous avez connus à ce moment-là ?
Oh oui, oh, les animaux, il est rare que je les oublie, vous savez. Ils ne méritent pas à jamais d'être oubliés. Qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Eh bien, vous nous parlez par exemple d'un crapaud qui chante le soir.
Oui, gros crapaud.
D'un gosier amoureux.
Un énorme crapaud. Ce n'était peut-être pas lui qui chantait, mais il était là tout le temps. Je ne l'ai pas vu chanter. Et je ne sais pas si c'était lui qui chantait. Mais c'était un fort, beau, confortable et énorme crapaud.
Vous avez un trait pour le dépeindre. Vous écrivez « déférent mais rassuré, il me regarde de temps en temps, puis s'appuie d'une main humaine contre le mur et se soulève debout pour le happer ». Vous le revoyez encore ?
Oh, très bien. Je vais gratter la tête.
Frédéric Magé, vous êtes directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Vous avez bien voulu commenter pour nous les archives de notre dernier épisode. On entend d'ailleurs rarement une Colette aussi joyeuse, au fond, que quand elle parle en archives des animaux.
C'est certain. Si dans l'œuvre de Colette, les romans d'amour finissent mal, si l'homme est souvent méchant, et quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, bien sûr, il y a dans l'œuvre de Colette des créatures qui sont préservées de ce pessimisme assez radical, finalement, sur le vivant. Ce sont les bêtes.
Est-ce que ça a du sens de dire qu'elle était amoureuse de la nature ou amoureuse du vivant et des bêtes ?
Elle était fascinée. Je crois ça certainement. Elle avait une fascination pour la créature, pour ce qui veut vivre, comme sa mère, hein, le devait à Sido. Une profonde sympathie, une connivence et même une préférence, c'est ce qu'elle dit. Colette est résolument du côté des bêtes, quitte à être du côté des bêtes contre les hommes.
Comment ça se traduit ça ?
Ça se traduit par d'abord des textes, à la fois des articles et des textes qu'elle publie où elle prend la défense des animaux. C'est une part encore assez méconnue de Colette, mais Colette aurait très bien pu être une activiste de la cause animale aujourd'hui. Il y a des scènes qui ont été rapportées par ses maris, qui racontent que lorsqu'elle habitait boulevard Suchet, par exemple, et qu'on maltraitait des chevaux, elle sortait en peignoir pour menacer les tortionnaires partenaires de leur faire la même chose. Elle-même racontait drôlement que le seul emploi qu'elle avait sollicité dans sa vie, c'était directrice de zoo, justement pour rendre la vie des animaux en captivité plus agréable.
Elle n'aurait pas ouvert les cages comme une vraie activiste, elle aurait été comme ça directrice pendant un jour seulement.
De toute façon, on lui a refusé ce poste. Mais je crois que plus le temps a passé, plus elle a compris que finalement les bêtes n'étaient jamais aussi belles que entièrement libres, loin des hommes, même si elle a tenu jusque tard, jusqu'en tout cas en 1939, à être elle, entourée par des animaux qu'elle avait élus.
En 1948, Colette avait donné pour la radio une série d'émissions dans laquelle elle racontait ses souvenirs et un numéro entier était consacré à ses chiens.
Elle avait une mémoire subtile, comme la plupart des chiens à gros cerveau rond, les bulldogs, les bull terriers et les petits terriers brabançons et les boxeurs. La boxeur de mon frère aîné, elle savait plusieurs chansons. Et ma bulldog Souci, elle savait un nombre extravagant de mots. Elle les apprenait si rapidement que je m'offrais l'amusement de lui donner des défauts de prononciation. Elle aimait les fruits avec une préférence marquée pour la framboise et le raisin bien mûr que je désignais pour elle seule, bien entendu, quand nous étions seuls, sous les noms de framboise et de raisin avec lâche fortement aspiré. Je vous en prie. Quelquefois, j'oubliais les rites. Et je lui demandais, vous voulez une framboise? Vous voulez un raisin? Elle me regardait d'un air buté et ne me répondait rien. Alors je rectifiais, naturellement. Je disais, vous voulez une petite framboise ou bien un petit raisin? Sur quoi Souci s'élançait, soulagé, avec des marques de joie et d'acquiescement, jusqu'au jour où, ayant découvert que non seulement la vigne, mais la framboiserie fructifiait à hauteur de bulldog, elle se passa de mon aide et des vocables corrompus pour prendre vers 7h du matin son petit déjeuner de framboises et de raisins.
C'est vrai qu'on parle souvent de Colette et les chats, on en reparlera sans doute, mais juste après les chats, dans le bestiaire colettien, il y a les chiens. Ces chiens sont très nombreux, ils ont laissé leur nom dans l'œuvre. Bien sûr, on pense à Toby Chien, à Patty Patty, à Souci, à Nell. Il faut se souvenir que dans Dialogue de bêtes, donc il y a le dialogue entre Kiki la Doucette, le chat, et Toby Chien, le chien, qui sont donc deux animaux qui ont réellement existé. D'ailleurs, Dialogue de bête a été écrit après la mort de Kiki. Qui était le chat de Willy? Dans la répartition, le chat était du côté de Willy, du côté de lui, et le chien du côté de elle. Et quand elle va faire revenir d'ailleurs le personnage de Toby Chien, notamment dans les Vrilles de la Vigne, il est véritablement son confident. Peut-être que le chien est celui qui est le plus humanisé finalement des animaux.
Là, en tous les cas, elle humanise énormément le chien.
Et les textes que Colette consacre aux chiens, à la fois aux chiens sauveteurs, mais aussi aux chiens qui restent près de leur maître dans les tranchées, sont tout à fait bouleversants et témoignent bien de cette profonde sympathie du chien qui ne peut pas vivre loin de l'homme et qu'il distingue peut-être d'ailleurs du chat qui a un mystère plus grand, qui est moins humanisé, qui finalement garde une part de sauvagerie, beaucoup d'étrangeté aussi.
Mais qui déplaît ou qui plaît à Colette?
Ah, qui plaît à Colette.
Non, elle est plutôt du côté du chat alors finalement.
Contrairement à ce qu'elle met en scène dans ses premiers textes, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale, après, cette hiérarchie va se renverser et c'est le chat qui va devenir véritablement l'animal dominant. Il y a un chercheur, il y a quelques années, qui avait fait les relevés de tous les animaux dans le bestiaire de Colette, avec des tableaux et des graphiques, et le chat arrivait bien au-dessus de l'occurrence du chien. Et il avait fait cette même étude pour les grands romanciers de la première moitié du XXe siècle. Et Colette bat tout le monde, et de loin.
Son regard abandonnant Camille embrassa la nuit, la cendre d'étoiles, les cimes des trois peupliers qui éclairaient les lumières de la chambre. « Eh bien, dit-il simplement, je m'en vais. »«
Oh, écoute, écoute, supplia Camille follement,
très bas. » Il portait ça dans un panier ventru dont Madame Bux servait pour faire le marché. Vêtu à la hâte, les cheveux mal coiffés, un foulard au cou, il avait un air de désordre amoureux, et les paupières de Camille se gonflèrent. Mais elle entendit ça remuer dans le panier, et elle serra les lèvres. « Voilà, je m'en vais, » répéta Alain. Il abaissa les yeux, souleva un peu le panier et corrigea avec une cruauté raisonnée « Nous, nous en allons. »
L'un des romans les plus étonnants de Colette pose frontalement la question de la limite de l'amour qu'on peut porter à un humain ou à un animal. Son titre, c'est « La chatte » et l'intrigue est la suivante. Un jeune homme, prénommé Alain, est très épris de sa chatte Sarah, entretient avec elle une relation quasi mystique qui déplaît très fortement à sa fiancée, Camille, à la fois passionnée et jalouse, et qui a peut-être de bonnes raisons de l'être.
Je discutais dernièrement, je m'excuse de vous citer ça, mais c'est important pour notre entretien, d'Alain et de son comportement, excusez encore le mot, vis-à-vis de sa chatte, avec une jeune femme qui me répondait « Mais votre Alain n'a pas les pieds par terre, car en amour, on ne peut pas choisir comme ça. »
Choisir ? Qui parle de choisir là-dedans ?
Il préfère sa chatte à sa femme, il choisit quand même. Or, il choisit un être qui ne peut rien lui rendre de ce qu'il lui donne, sauf sur certains plans, alors que sa femme pourrait peut-être, s'il savait la comprendre et s'il voulait, et s'il l'avait aussi bien choisi, lui rendre tout ce qu'il lui donne et établir avec lui un échange vraiment amoureux.
Oui. Mais si sa femme ne lui avait donné aucune occasion d'avoir à préférer, d'avoir à choisir, il n'aurait peut-être pas celui-même que, ou qu'il préfère, ou qu'il choisit. C'est une des maladresses de sa femme qui lui en ont donné, qui l'y ont obligé.
Il n'y a pas de place, selon vous, chez un être, pour deux sentiments d'égale force, deux sentiments d'amour.
Il n'y a pas d'égale force, et surtout pas dans les sentiments qui avoisinent l'amour, non. Il n'y a pas d'égale force. Par conséquent, ça ne peut pas prendre des places équilatérales, non.
Il devait préférer sa chatte.
Il devait préférer sa chatte, mais il y a été contraint par une maladresse et une brutalité de sa femme.
Étonnante fin de cet extrait d'archives. Qu'en pensez-vous, Frédéric Magé ?
Je crois que Colette, d'abord, elle se moque un petit peu de son interlocuteur. Hein. Cette idée de la réciprocité ne colle pas avec ce qu'est, en tout cas pour Colette, le sentiment, ce que serait le sentiment amoureux, qu'il s'agisse d'ailleurs des hommes ou des bêtes. Il n'y a pas de réciprocité dans l'amour des bêtes. On les aime absolument, sans espoir de retour. Hein,
sauf pour le chien, quand même, qui est très affecté.
Oui, mais malgré tout, pour Colette, c'est un amour absolu qui n'attend pas nécessairement de réciprocité. Dans le cas de la chatte, le personnage d'Alain, là où je ne la suivrai pas, c'est qu'on comprend dès le départ qu'il a choisi, lui. Le mariage avec Camille est une concession qu'il fait au monde bourgeois auquel il appartient, qu'il fait à la société, concession que Colette a elle-même fait, ce qui n'empêche pas cette relation tout à fait privilégiée qu'il entretient avec Sarah, qui est le double du chat que Colette a à l'époque, qui s'appelle et qui n'a jamais eu d'autre nom que la chatte, qui deviendra par la suite la chatte dernière, que Colette avait achetée en 1926 et qui va l'accompagner jusqu'en 1939, qui est un animal auquel elle tenait énormément. Hein, et d'où le fait de lui avoir consacré finalement tout un roman et d'avoir transposé dans le personnage d'Alain la relation qu'elle avait elle-même avec cet animal. D'ailleurs, à la mort de la chatte dernière, Colette n'aura plus d'animaux autour d'elle parce que personne ne pouvait, à ses yeux, la remplacer. Elle raconte même qu'elle était visitée par le fantôme de cette chatte dernière. Et dans le cas de la chatte, je crois que Alain emblématise à la fois, je crois, toute la crainte que les personnages colettiens ont d'affronter le monde social et les compromissions du monde social, qu'il s'agisse des adolescents ou de ce jeune homme Alain, et en même temps est le symbole de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette connivence qui est en fait une préférence pour l'animal.
Si Si Colette aime tant les animaux, c'est sans doute qu'elle a su les observer mieux que quiconque et aussi qu'elle a su les comprendre. On l'entend dans cette archive où l'on se rend compte qu'en matière de chiens, elle sait vraiment de quoi elle parle.
Voici que la mode du caniche marron touche à sa fin et que celle du cocker noir lui survit à peine. Divers chiens de chasse ont acquis depuis la guerre faveur et haut prix, mais principalement les épagneuls. Les épagneuls rouges à cajou, truités de blanc et de noir, ou bien blanc et foie, vous pouvez les rencontrer sur les trottoirs en laisse, avec l'air de désespoir raisonnable qui convient aux chiens de chasse en villégiature à Paris. Sages, certes, l'œil bas et faisant la queue chez la fruitière pour les bananes, sages et pourtant doués d'une aptitude singulière à s'égarer. Je lis dans les journaux, perdu entre rue de Miroménil et gare de l'Est, 7 heures avec collier sans adresse, perdu épagneul breton répondant au nom gamin, perdu épagneul breton. Et tout ça, la faute à qui? Sur qui répondre ma suspicion? Oh, pauvre épagneul!
Frédéric Maget.
Alors d'abord, il faut rappeler une chose qui pourra surprendre, c'est que Colette achetait ses chiens. Elle achetait ses chiens à grand prix dans des concours, des expositions canines, etc. Les chats étaient plus souvent, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas de la chatte dernière qui a été achetée, mais les chats, sinon, le plus souvent entraient dans sa vie par hasard. C'était finalement les chats qui choisissaient Colette et Colette qui choisissait les chiens. Alors là, l'archive qu'on entend, évidemment, c'est l'image dans laquelle Colette a été enfermée elle-même et de bon gré, c'est-à-dire la romancière des animaux, des chiens et des chats, au point que, eh bien, elle est capable de donner des conseils à ses auditeurs sur la façon de choisir le bon chien ou sur les modes canines que connaissent évidemment toutes ces ventes.
C'est aussi la chroniqueuse de journaux qu'on entend là.
Exactement. Si j'osais faire ce parallèle, de même, elle tiendra le courrier du cœur parce qu'elle est la romancière des choses de l'amour et donc on peut lui demander des conseils.
C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans cette série.
Voilà, c'est Colette a ceci de particulier qu'elle n'est pas simplement une immense écrivaine, elle est une personnalité publique dont la voix compte pour ses lecteurs, au point de lui demander toutes sortes de conseils, comme si finalement cette sagesse terrienne, donc ancestrale, dont Colette avait hérité de sa mère Sido, était une garantie de faire les bons choix dans l'existence, y compris quand il s'agit de choisir un chien.
Dans tous les domaines, Colette défend la liberté. En ce qui concerne les animaux, elle s'insurge contre le sort réservé à ceux que l'on fait vivre en cage. Voilà ce qu'elle écrit. « La condition de ces bêtes encagées, si l'on s'y arrête, est un tourment pour l'esprit. On oublierait la prison, la misère de ces êtres puissants et condamnés s'il n'y avait pas, à chaque instant, et pire que leur va-et-vient maladif d'une paroi à l'autre, cette habitude désolée de lever la tête vers le ciel, cet appel à la lumière, au vent libre, cette prière de la bête qui croit jusqu'à la mort. » Alors vous en avez un petit peu parlé, Frédéric Maget, déjà, mais quelle réflexion cette citation vous inspire-t-elle ?
Eh bien, cette connivence de Colette avec la bête lui ferait prendre conscience des mauvais traitements que les hommes, finalement, réservent à ces animaux qui leur font confiance. Et il y a beaucoup de textes qui reviennent là-dessus, sur finalement cette extraordinaire confiance, don de soi des animaux, qu'il s'agisse notamment, bien sûr, des chiens et des chats, mais pas que de ces animaux qui vont spontanément vers l'homme, et de l'homme qui finalement ne leur rend pas, ou très mal, cet amour et cette affection désintéressée. Et comme je l'ai dit, elle prendra parole publiquement dans la presse et dans ses textes pour prendre la défense de ces animaux, pour rendre les animaux sauvages à leur liberté, à l'état sauvage, d'où cette dénonciation de l'utilisation des animaux pour les expériences scientifiques, pour les cirques, que pour les eaux.
En grande connaisseuse de la psychologie, Colette ne s'intéresse pas uniquement aux relations entre les êtres humains. Les interactions des animaux entre eux font aussi partie de ses intérêts. On sait d'où elle tient cela, car Sido aussi les regardait vivre, comme on l'entend dans cette lettre.
Ce matin, j'ai assisté chez moi à une petite scène singulière. Tu sais que ta chatte a une petite chatte. Le père de cette petite chatte, c'est un matou gris, qui serait joli s'il était assez bien nourri. Mais tel qu'il est, la chatte l'a en haute estime. Elle le reçoit sans haine, et donc ce matin, elle l'aperçoit dans le jardin. Aussitôt, elle vient chercher son petit et le dépose au pied du matou en ayant l'air de lui dire « Tiens, voici ta fille, regarde-la, est-elle assez jolie, n'y touche pas surtout. » Et comme il la reniflait d'un peu trop près, elle s'est avancée sur lui. Il a compris et s'est prudemment esquivé. C'est la première fois que je vois cette confiance chez une mère chatte envers un matou.
Il y a deux choses qui sont frappantes dans cet extrait. D'abord, l'importance que Sido a eue dans sa vocation, c'est le mot qu'emploie Colette, pour les animaux, bon, pour les chats en particulier, mais pour les animaux. On voit dans les textes de Colette et dans les lettres de Sido le même engagement de Sido, à la fois l'intérêt qu'elle porte à tout ce qui veut vivre, c'est l'expression de Colette, mais aussi elle-même était capable d'une grande violence quand des hommes maltraitaient des animaux. Donc ça, Colette le doit à Sido. Mais ce que j'entends aussi qui est très intéressant, c'est cette solidarité féminine, finalement, trans-règne, si je dis, qu'il s'agisse des animaux ou des humains. Il y a un très très beau texte de Colette qui parle de cela, où la mère est en train de coiffer la fille à Saint-Sauveur en Puisaye, il y a une chatte qui est pleine, et la petite Colette met la main sur le ventre de sa chatte, elle a le mouvement des dauphins sur la mer, dit-elle très joliment, et elle parle de cette impression extraordinaire et fascinante de gynécée. Mmh. Et Sido lui dit d'ailleurs que les matous sont partis, comme les maris, les hommes sont partis boire ou jouer aux cartes, peu importe finalement.
Ou se promener sur les toits.
Voilà, ou se promener sur les toits. Et finalement, ce qui est important, c'est cette solidarité et cette solidité, là encore, et cette force des femmes, qu'il s'agisse d'humains ou, là en l'occurrence, d'une chatte.
Au-delà des animaux, il y a chez Colette un rapport global à la nature. On pense aujourd'hui avec un peu de mélancolie à la campagne pleine de bêtes, d'insectes et de bestioles décrites par Colette, à l'heure où les bruits s'y font de plus en plus discrets. Sur la Côte d'Azur du temps de l'écrivaine, la nature était bien plus présente qu'aujourd'hui. Mais les signes d'un changement de mode de vie et l'imminence du tourisme de masse interpellent l'écrivaine dès les années 40, on l'entend dans cette archive.
On ne me montre pas que ce qui est beau. La prévenance de mes amis me mène à une quinzaine de kilomètres d'ici, à Cannes, tout le long de la Croisette, en choisissant l'heure où entre des baigneurs, un baigneur, une baigneuse nue, s'insinue dans un petit flot disponible, où un consommateur entre des consommateurs revendique un secteur de guéridon et un jus de fruits personnel, où le dos nu dites au dos nu son voisin, avec l'accent du défi, « Eh bien, moi, je suis plus noire que toi. » Le spectacle m'est si étrange que je réclame comme au manège de chevaux de bois encore un tour. Sur la mer, un bateau tire après lui un ski nautique, un insecte d'argent au bout d'un fil. Au loin et couplé, ennoblis par la distance, leur pariade est la seule qui évoque ici l'idée de l'amour, tout le reste vraiment. Je vous assure, je n'ai jamais vu, je crois, une foule moins amoureuse, ni plus nue que ce Cannes 1840-1948.
Je ne crois pas que ce soit la nudité qu'elle blâme ici. C'est le caractère obligatoire, le caractère commercial, le caractère presque artificiel de tout ça. C'est d'ailleurs ce tourisme moderne qui aura fait fuir Colette, qui quitte en 1938 Saint-Tropez et la Trémuscate au moment où, après les congés payés, lorsque les touristes commencent à arriver. Colette le dira très bien, elle était, ses frères, sa mère et elle, des fervents de la campagne sauvage. Ce qu'elle veut retrouver au contact de la nature, c'est cette sauvagerie. Je le répéterai jamais assez, mais Colette est une grande pessimiste à l'égard des hommes. Et donc, la solitude, le contact privilégié avec les animaux, les balades dans la nature restées encore préservées des interventions des hommes est quelque chose qui fascine Colette et finalement qu'elle fait revivre dans ses textes. Et j'ai envie de dire qu'elle fait revivre dans son style. Quand vous pensez que sous la plume de Colette, les hommes deviennent des animaux, les plantes deviennent des animaux, les plantes deviennent des humains, ce qui a été très bien étudié par Régine de Tambel dans Comme une fleur, comme un zoo, cette interpénétration métaphorique des règnes dans l'œuvre, quand vous pensez à cette façon qu'a eu Colette de faire rentrer dans la langue française tout cet univers sensoriel, vous prenez une page de Colette et cette sauvagerie, elle vous est redonnée.
Au final, Frédéric Magé, puisqu'on a parlé d'amour tout au long de cette série, quel regard portez-vous sur cette vie amoureuse de Colette, depuis Willy jusqu'à Maurice Goodkett, en passant par Missy et par les Jouvenel père et fils?
Je crois qu'un des grands mérites de Colette est d'avoir tenté de détacher la question du sentiment amoureux de deux autres questions auxquelles elle était automatiquement associée. D'abord le mariage et d'autre part la sexualité. Et en fait, si on y réfléchit bien, toute l'œuvre de Colette est traversée par cette volonté de tenter de réinventer le couple, en essayant d'imaginer un couple où l'homme et la femme, ou la femme et la femme, ou l'homme et l'homme trouveraient une forme d'équilibre, d'équité, d'égalité, de sympathie et je dirais de camaraderie. Elle voudrait que dans un couple on soit de bons camarades. Et ça, c'est un rêve qui traverse toute l'œuvre, qui ne se réalise jamais, en tout cas pas dans les romans d'amour. Mais
qui se réalise peut-être dans sa vie à elle à certains moments, et je pense au moment avec Maurice Goodkett.
Qui se réalise d'une certaine façon avec Maurice Goodkett, mais avec quand même un décalage à la fois, je dirais, pas simplement générationnel, mais de statut, puisque quand elle le rencontre, elle est véritablement déjà, elle est devenue l'image d'elle-même, je dirais, elle joue son propre rôle, d'ailleurs pour séduire Maurice Goodkett aussi. Donc il y a cette forme de décalage qui me dérange un petit peu dans cette relation entre Maurice Goodkett et Colette, même si, comme vous le savez, elle l'appelait mon meilleur ami. Donc cette camaraderie, elle l'a recréée avec lui, mais à un moment où, pour le coup, la question de la sexualité était sans doute moins prégnante. En tout cas, il y a chez Colette cette volonté de réinventer l'amour, le désir, peut-être en dehors de la mainmise du corps social sur le couple, d'où la détestation du mariage, vu comme l'asservissement conjugal qui fait de la femme une nurse pour adulte, ce qui n'a pas empêché Colette de se marier 3 fois, mais comme vous le savez, Colette est un être paradoxal.
Je replie un grand cœur flottant, vidé de ses 3 ou 4 prodiges, qu'il a bien battu et combattu. Là, là, cœur, là, doucement, reposons-nous.
Arrivé au terme de cette série, on se rend compte que nous avons parlé non seulement des amours de Colette, mais de sa vie tout entière et aussi de sa littérature. Comme si toute sa vie avait au fond tourné autour de l'amour et sa littérature aussi. D'ailleurs, la vie et les livres, n'était-ce pas un peu la même chose pour Colette ? L'amour selon Colette, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, Delphine Lemaire et Lily Corner, prise de son Sacha Krin, mixage Jason Taous, Alina Arnaud-Plançon, documentation musicale Yacine Dumont et Antoine Vuilloz. Sachez que certaines des archives de cette série proviennent des 6 formidables entretiens de 20 minutes de Colette avec André Parineau, qui sont à écouter sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.